Question Flavia que je voulais te poser. Ce film, c'est un peu. Donc, nous, on a vu tes films antérieurs, on a vu le documentaire sur Retrato de la Búsqueda, on a vu Des Lembro, on a vu As Vitrines. Et ce film-là est un peu différent des autres films que tu as fait, ou ce sont des films plutôt qui parlent de ton histoire, de l'histoire du Brésil, de la dictature, de la mémoire, etc. Et celui-là, c'est un film, je dirais presque un peu historique. Est-ce que tu peux nous raconter comment est venue l'idée de ce film? Quelle est la genèse du film?
D'accord. Bonsoir. Une fois qu'on m'invite à réaliser un film, donc c'est complètement différent comme point de départ, disons. Après, le processus, il ressemble un peu aux autres, parce que c'est un investissement total et une osmose avec une équipe très très qui était en fait la même équipe de Des Lembro et de As Vitrines en grande partie. Donc en fait j'ai fait la première fiction Des Lembro, après Cyclone et juste après As Vitrines. C'est dans cet ordre que j'ai tourné. Donc c'est un film où on m'invitait, il y avait déjà le scénario qui était assez avancé.
C'est un film qui, pour moi, c'était complètement nouveau d'arriver à un projet où il y avait déjà de l'argent pour tourner. Il y avait déjà... Enfin, c'était pas cette espèce de lutte acharnée de beaucoup d'années avant de commencer à faire le film. Donc, c'était très agréable. À la fois, c'était un défi énorme parce qu'un film qui se passe dans les années 20, tourné à São Paulo avec un budget convenable pour le Brésil, mais pas non plus énorme. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Ça, c'est le point de départ.
Et pourquoi tu dis que le scénario était déjà avancé, c'est-à-dire qu'on t'a contacté pour réaliser le film, alors que le scénario était déjà écrit. Par qui avait-il écrit, et est-ce que tu as intervenu ensuite sur le scénario?
Oui, on a eu un échange pendant un an. En fait, l'histoire, c'est que Luisa Mariani, qui est l'actrice qui fait Cyclone, elle est aussi la productrice du film et elle a passé, elle, très longtemps à chercher l'argent et les moyens de faire ce film. Et elle m'a contactée, c'est elle qui m'a invitée à le faire. Elle avait vu mes autres films et voilà. Et donc elle m'a invitée. Et on a passé un an, moi, Louise, l'actrice et la scénariste, Rita Piff, à travailler sur cette version déjà bien avancée de Rita. Donc l'auteur du scénario, c'est Rita Piff. Mais disons qu'on a eu un échange très très riche qui a duré un an jusqu'à ce que ce soit suffisamment mûr pour qu'on tourne. Quoi.
Et donc après, ensuite, comment tu as travaillé sur la réalisation et surtout tout le travail que tu as fait d'ambiance, de rendre cette ambiance très particulière du théâtre, du début de siècle du théâtre, avec les couleurs, avec comment est-ce que tu as travaillé cela?
Alors moi, pour moi, le principal défi, enfin, à l'inverse, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est que je la sentais brutalement contemporaine, en fait. C'est une histoire qui n'est pas terminée, quelque part. Au Brésil, l'avortement est toujours interdit. Pour ne donner qu'un exemple des diverses choses que traverse Cyclone et dont on peut faire... écran avec ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays pour les femmes. Et donc ça m'intéressait. Et j'avais pas envie de faire un film figé, que ce soit un film à costume ou en costume, je sais plus comment on dit, lourd, avec des décors et beaucoup de choses et tout ça. Donc j'avais vraiment envie qu'on puisse le voir en s'identifiant et surtout en le sentant contemporain, en le sentant un film du présent quelque part. Et je dis ça, mais à la fois, une des sources d'inspiration pour penser à cette image, c'est des films muets des années 20, notamment les films de Stroheim, je ne sais pas dire leur nom, c'est impossible, mais des Allemands, des Européens qui sont allés à Hollywood au début des années 20, enfin même un peu avant, et qu'on fait, il y a particulièrement deux films qui me touchent beaucoup, c'est des films où les personnages féminins sont très forts, qui sont en rupture un peu avec l'image justement des femmes telles qu'on les voyait dans le cinéma américain de l'époque. Et je pense notamment à Lillian Gish dans Le Vent, qui est un film que j'adore, et un autre film qui s'appelle je crois que ça s'appelle Une Lumière de Murnau, du coup, Murnau, je ne sais pas comment on dit en français. Et donc, c'est des films où je sentais qu'il y avait un personnage qui correspondait à l'époque où a vécu le cyclone, mais qui était en rupture avec leur temps, avec les mœurs de l'époque, etc. Et donc, c'est à partir de là que j'ai choisi de ce format carré, qui est évidemment le format de ces films. Et après est venue la couleur, enfin l'envie de ce contraste très fort d'un noir très noir et des couleurs qui pètent un peu quelque part. Donc ça, c'est un peu pour la construction esthétique du film. Mais un autre aspect qui vient s'ajouter à ça, c'est le son. Ce travail sur le son qui est quelque chose qui me touche beaucoup, que je travaille dans tous les films. Mais là, c'était particulier parce que je voulais rendre un peu cette ville en construction, San Paolo qui est en pleine construction à cette époque-là, avec beaucoup de bruit de la ville. Et les bruits qui sont les voix et les sons et les mots que Don Ciclone s'approprie dans son œuvre, dans ce qu'elle est en train d'écrire, dans ce rapport qu'elle a très, comme ça, d'absorber un peu son ce qui se passe autour d'elle pour son écriture.
Et Flavia, tu sors cette année deux films, donc Cyclone et As Vitrines, qu'on a vu à Biarritz. Donc, comment c'est possible deux films dans une même année? Quand est-ce que tu les as commencés? Comment a été la production? Et comment est-ce qu'ils ont fait une tournée dans les festivals? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et ensuite, je passerai la parole à la salle.
Alors, deux films, moi je suis lente, je ne suis pas du tout du style à enchaîner quoi que ce soit, mais là, il y a eu un concours de circonstances qui était que si je ne faisais pas As Vitrines juste après, on perdait l'argent, le peu d'argent qu'on avait, parce que c'est un film à très très petit budget, As Vitrines. Et donc, il fallait faire, donc c'était soit le faire, soit laisser tomber le film, et ce n'était pas possible. Donc voilà, donc ça a été. Il y a eu un aspect dur physiquement, mais c'était à la fois intéressant d'enchaîner avec pratiquement la même équipe, parce qu'on a eu trois semaines d'intervalle, enfin, j'ai le début de notre tournage, avec la même chef-op, la même directrice artistique, enfin décor et tout ça, et du coup tout le monde était déjà dans un élan et dans une complicité très très grande, donc quelque part c'était très dur et peut-être qu'en même temps ça a facilité certaines choses aussi. Ce qui pour moi est un peu surprenant, c'est que ce sont deux films complètement différents. c'est très bizarre. Et pour la sortie des films, bah, c'est compliqué aussi. On va à certains festivals avec l'un, à d'autres avec l'autre, et puis à certains festivals avec les deux. On a pas mal de festivals qui veulent les deux, donc ils circulent, et Cyclone est déjà sorti au Brésil, et As Vitrines sortira en juillet.
Et est-ce qu'il y a des possibilités ou des discussions pour une distribution de l'un des deux, par exemple en Europe?
Oui, je pense que oui, on est sûr de rien encore, mais je pense que probablement As Vitrines trouvera un chemin. C'est très très dur en ce moment, malgré toute cette flamboyance du cinéma brésilien. Paradoxalement, c'est très compliqué parce que même avec Lula, toutes les aides publiques sont plus ou moins bloquées, ça bloque de partout. Donc tout est très compliqué en ce moment pour le cinéma au Brésil. Même si par ailleurs on a cette espèce de flamboyant extraordinaire avec Agente Secret ou Ainda Estou Aqui, Baby, Man, enfin des films qui sont vraiment sortis du côté seulement des gens qui aiment le cinéma latino-américain, ils sont allés beaucoup plus loin que ça.
Merci. Donc je vous passe le micro, vous avez sans doute peut-être des réactions ou des questions à poser.
Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question sur la bande son. Je voulais savoir comment vous avez travaillé avec ces sons qui arrivent, dont on ne sait où, mais qui sont très, très fort, très, très prenant, et puis des décalages aussi. Voilà. Que pouvez-vous nous dire d'avant le son?
Alors, il y a un côté, enfin, tout le sound design, enfin, cette espèce de dessin sonore du film, je l'ai pré-travaillé au montage, toute seule, dans ma partie du montage, disons, parce qu'on était deux monteuses, enfin, moi et la monteuse. Mais c'est moi qui ai travaillé le son, parce que c'était très important pour moi qu'il soit vraiment... qu'il raconte l'histoire aussi. Je ne voulais pas qu'il soit juste symbolique ou pour marquer certaines choses. Pour moi, le son dans ce film, il raconte l'histoire. Donc j'ai fait ça chez moi, en bricolant beaucoup, en tentant des trucs. Tout. Parce qu'en fait, j'utilise pas mal de procédés assez anciens du cinéma. Tous les effets, entre guillemets, qu'il y a à la fin, vers la fin, dans le théâtre, tout ça, c'est des choses qu'on a bricolées aussi, que j'ai fait. Chez moi, c'est pas, on n'a pas de grands effets, on n'a pas de grands, de grands moyens. Aussi par choix, par envie de faire comme ça, de faire d'une manière très artisanale. Et le son, il est venu comme... Il est vraiment... il participe à cette construction comme ça, avec toujours... les imprévus qui se sont ajoutés au fur et à mesure du film. La chanson, à la fin, c'est, enfin, à la fin, enfin, qui traverse le film, c'est Louise qui chante, c'est l'actrice qui chante. J'ai pris une chanson aussi, Cabraja, qui a été chantée par l'actrice. Et là, c'est aussi des choses qu'on fait. Que quand on arrive à faire, c'est vraiment génial. C'est la version qu'il y a dans le film, c'est vraiment la version live, disons. On a fait ça en longueur, elle chantait sur le décor du film, c'est pas du tout du post-synchronisé ou des trucs qui ont été placés après. Toute cette fête du début du film, ça, on l'a filmé. Il y a beaucoup, je pense, de mon travail de documentariste d'avant qui est ressorti dans ce tournage, dans cette tentative de faire moins figé, justement, dont je parlais au début, de faire moins film à costume. Je réponds un peu dans le désordre, mais pas d'une manière très systématique. Mais en tout cas, je pense que le son, il fait partie de ce mouvement de rendre le film sensoriel. Je voulais chercher un autre mot, parce que ce mot, il est devenu... mais de faire qu'on puisse le sentir comme ça, à d'autres, de d'autres formes que juste l'histoire qu'on raconte. C'est très important pour moi que l'ambiance ou vie cyclone soit ressentie par le spectateur. Et je pense que ça passe beaucoup par le son et par le bruit aussi, par tous les bruits qui l'envahissent.
Merci.
Bonsoir, Flavia. D'abord, avant de poser ma question, je voulais vous dire que la salle était pleine. C'est juste que c'est un peu tard. Et ma question concerne par rapport à la cohérence de l'époque, c'est ce qui est montré dans les films. Parce que si j'ai bien compris, on est dans les années 1919. Et il y a trois choses qui m'ont interpellée. Et je voulais juste avoir plus. Il y a trois choses qui m'ont interpellée. Donc je voulais avoir juste plus d'informations par rapport à pourquoi ça a été fait ainsi ou me donner un peu plus de contexte. Donc la première chose. Cyclone et travail, et on est dans les années 1919. Et je me demandais à l'époque, est-ce que les femmes travaillaient vraiment avec un travail régulier? Premier point. Deuxième point, j'ai l'impression que Cyclone porte des vêtements plutôt contemporains, plutôt modernes. Je ne sais pas si c'est une question budgétaire, peut-être. Et troisième. Et troisième point, il y a la question raciale qui joue un peu avec des messieurs qui évaluent ces productions. Est-ce qu'à l'époque, on avait des personnes de couleur avec une prépondérance dans les domaines pour évaluer des œuvres? Donc il y a ces trois points qui m'ont interpellée, qui ont soulevé...
Ta dernière question, excuse-moi, ta dernière question, je n'ai pas très bien compris.
Oui, mon dernier point, c'était lié aux messieurs qui évaluaient l'œuvre de Simone. Parce que, Cyclone, pardon. Elle devait rédiger une œuvre pour soumettre aux messieurs qui devaient normalement l'approuver ou pas. Et ça m'a interpellée, quelqu'un des couleurs dans les années 1919 avait cette prépondérance en termes de décider si une œuvre passait ou pas. Moi, je ne connais pas grand-chose sur le domaine. Donc, c'est, si tu pouvais me donner plus de détails par rapport à ces trois points-là, je te remercie beaucoup.
Alors, sur les femmes travaillées, oui, bien sûr, les femmes travaillaient, les femmes pauvres travaillaient, les femmes qui n'avaient pas, comme Sikone, qui est d'une origine modeste. Elles travaillent dans un endroit très particulier, qui est un endroit qui... Il y avait, à cette époque-là, à São Paulo, des groupes anarchistes très très forts de la communauté italienne, des immigrants italiens qui étaient venus au Brésil, surtout. Et elle faisait partie un peu de cette ambiance-là. Ça, dans notre film, parce que dans la vraie histoire, non, elle était aussi pauvre, mais elle n'était pas d'origine italienne. Sur les costumes, ça c'est un choix. On a mélangé les époques, on a des références très précises de cette époque, mais avec des libertés qu'on a prises, effectivement. Si on regarde individuellement les vêtements, la plupart sont de cette époque, mais la façon dont elles les mélangent et dont elles s'habillent, c'est notre Patti Smith quelque part. Et c'est ce qu'on voulait. On la voulait un peu plus punk qu'autre chose. Enfin, on voulait avoir ce mélange. On a eu cette liberté-là. Et le troisième point, je ne sais pas si j'ai très bien compris, mais c'est par rapport à comment se faisait le choix de l'œuvre là. C'est ça que tu...
Oui, et le fait que ce soit une personne noire qui doivent...
Ça aussi, alors, juste pour expliquer quelque chose avant, le film, il a eu une recherche historique, et ça, c'était avant même que je commence à participer, très très grande, menée par deux historiennes, surtout une, et qui nous a vraiment donné des bases pour tout ce qu'on a fait après. Pour toutes les libertés qu'on a prises aussi. Quand on prenait une liberté, on savait qu'on était en train de prendre une liberté. Elle a fait, par exemple, un dossier énorme sur les méthodes contraceptives de l'époque. C'était génial. Moi, j'avais jamais vu cette éponge qu'on a dans le film, qui était très courante, apparemment. J'avais jamais vu ça. Donc, on s'est vraiment basé sur des faits très concrets. Et pour le personnage qu'on a décidé que ce serait un homme noir, ça a été une grande discussion. Mais on a aussi compris que lui, et à l'époque, on avait une certaine... On commençait à avoir au Brésil, non, on avait déjà depuis un certain temps d'ailleurs, des Noirs qui rentraient dans le service public par des concours. Et donc celui-là, on imaginait que ce que ça aurait été comme ça, qu'il serait arrivé à ce poste. Mais ce qui est très particulier dans les scènes avec lui, je ne sais pas si vous avez remarqué derrière lui, il y a une immense photo où on a des hommes, tous blancs, et il y a un seul homme noir. Et cette photo, c'est une photo de fin d'année d'un cours de l'espace où on tournait, qui est une espèce de truc, de bel immeuble dans le centre de São Paulo, où était, c'était une espèce d'école d'ingénieurs ou quelque chose comme ça. Et dans cette photo qui est des années 40, qui est derrière lui, il y a... je ne sais pas, une cinquantaine d'hommes blancs et un homme noir tout derrière, comme ça, qui fait partie. Donc, il y avait un homme noir sur 50 blancs qui se sont formés comme ingénieurs ou quelque chose de similaire à cette époque. Et quand on a vu cette image dans cet espace, on s'est dit, bon, il faut qu'on assimile ça dans le film parce que c'était tellement incroyable qu'on décide de faire cette scène-là et que justement là, il y ait cette espèce de truc. Et ça m'a fait penser à autre chose, c'est que j'ai écrit un film sur une psychiatre brésilienne, Lise da Silveira, et quand j'enquêtais sur sa vie, j'ai vu la même photo, sauf que c'est elle, la seule femme, au milieu de 50 jeunes hommes, les premiers psychiatres à être formés au Brésil. Elle, la première femme psychiatre à se former au Brésil. Donc c'est des photos comme ça qui, je pense... nous rappelle un peu les situations des minorités. Et voilà, et quand l'acteur est arrivé dans cette pièce,
La première chose qu'il a vue, c'est évidemment cette photo. Et c'est un peu ces moments sur les tournages où les choses se télescopent un peu, ce qu'on vit comme individu face à une photo comme ça et un acteur noir qui représente un homme d'un autre temps, mais avec tout ce... toute cette réalité qui continue d'être là et autour de nous dans les images.
Merci. Autre remarque, question. Bonsoir. À propos de liberté artistique, et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi un personnage de la trentaine, si j'ai bien compté dans le film, et si le personnage réel avait été mort à 19 ans.
Pardon, c'est le personnage réel.
Pourquoi vous avez choisi un personnage plus âgé que le personnage d'un avis réel?
Oui. Ben, en fait, il y a deux explications à ça. La première, c'est que moi, j'ai accepté ce film parce qu'on ne racontait plus l'histoire de l'acétone réel. C'est plus un hommage. C'est plus, un hommage à l'acétone, mais ce n'est pas son histoire. Et la deuxième raison, c'est que Louise a passé presque 20 ans à essayer de mettre debout ce film. Donc, Louise, qui est l'actrice et qui est la productrice, une des productrices. Et donc, du coup, il fallait bien aussi que l'histoire avance un peu dans l'âge pour qu'elle puisse le faire. Donc, mais c'est vraiment pas l'histoire de la vraie cyclone, même si c'est un peu comme si on imaginait une vie possible pour cyclone. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si elle avait vécu plus longtemps?
Bonsoir, merci pour ce film. Et je voulais poser une question sur... j'ai ressenti qu'il y avait deux sortes de dénonciations. La dénonciation du patriarcat que porte le cyclone. Et puis ces scènes de théâtre de cirque, plus exactement, où l'on entend une condamnation du système politique, voilà. Quel était votre intérêt à doubler, enfin à présenter ces deux lignes de critique? Merci en tout cas pour ce film.
Alors c'est intéressant parce qu'en fait il y a quelque chose d'intérieur à cette question, ce qui est le choix de la pièce. Cette pièce a été écrite par, ce qui n'est pas une pièce en fait, qui est un texte, et a été écrit par Lima Barreto. Lima Barreto était un auteur noir, contemporain de Rosa Andrade, donc qui est des modernistes, mais il a toujours été mis un peu de côté par eux, il n'a pas fait partie du mouvement. Il est mort avant la semaine de 22, qui est la grande semaine où tous les modernistes se sont retrouvés au municipal. Et donc, de l'emmener au municipal, de prendre Lima Barreto et de le mettre dans le municipal, c'était pour nous une espèce de petite revanche en plus par rapport au moderniste, disons. Le cirque, c'est venu de deux choses. La première, c'était que pour moi, au départ, je me disais, mais je ne savais pas comment filmer le théâtre. Je trouve ça, en général, à part quelques très belles exceptions, c'est un peu chiant, le théâtre filmé, tout ça. Je ne savais pas trop comment j'allais le prendre. Et les modernistes avaient une passion pour un clown brésilien qui s'appelait Pioni. Et du coup, j'ai voulu... je me suis dit pourquoi on met pas le cirque dans le municipal, ça va encore casser un peu plus cette espèce de rigidité d'un théâtre très imposant. Donc il y avait ça, et bien sûr les mots, ce qui est dit dans cette pièce, ça faisait écran à Bolsonaro, où il y a tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé au Brésil il y a si peu de temps, et enfin et dont on n'est pas complètement sorti. Donc, je pense qu'il y a le passé, il y a un vrai rapport avec l'histoire réelle, et il y a cette espèce de regard vers notre présent à travers ce que disent ces clowns.
Et bonjour, bonsoir. Et écoutez, bon, d'abord, merci pour cette film, c'était très bon. Et je voudrais demander, pourquoi le choix de la première scène avec cette caméra tellement proche de tous les personnages? C'était vite et à la fois lent et très, 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 très proche. Pourquoi ces choix?
vous dites la première scène quand on est près des yeux et qu'on s'éloigne d'elle, ou après en général?
Et oui, dans la ligne, au principe, il y a plusieurs scènes. Maintenant, je ne peux pas dire combien ça a duré, mais il y a un bon moment, comme je suis derrière la caméra, un bon moment où la caméra prend toutes les choses très, très, très proches. Mais il y avait des flux, mais aussi il y avait des détails. Mais pourquoi ce choix? Et c'est un petit peu, bon, pas loin, mais pourquoi ce choix?
Alors, il y a... Je pense que quand j'ai choisi le carré, le format carré du cinéma muet, j'avais envie vraiment d'être très proche de Sikone et d'être sur son regard. J'avais pas envie qu'on découvre les espaces. Alors, j'ai vu dans des critiques au Brésil, c'était rigolo ça, que peut-être j'aurais fait ça parce qu'il n'y avait pas de budget pour filmer, pour faire des plans larges, puisqu'évidemment, reconstituer les années 20 à São Paulo, ça allait être compliqué. Mais peut-être qu'inconsciemment, je l'ai fait pour ça. Mais dans mon raisonnement et dans ma proposition, disons, esthétique, c'était une idée d'être très proche d'elle, parce qu'on est surtout sur elle tout le temps. Et quand on est sur un autre personnage, c'est comme si c'était son regard qui enveloppait ce personnage. Donc on allait aussi être proche des autres personnages. Je n'avais pas envie du tout qu'on soit distrait par... par les objets, parce qu'il peut y avoir de mignons quand on se retrouve dans une autre époque, de curieux, d'anecdotiques comme ça dans le décor. J'étais très... C'était un choix difficile parce que je sentais que ça gênait un peu parfois certaines personnes de l'équipe, notamment... ma super copine qui est au décor, Ana Paula Cardoso, et qui fait un travail très très beau. Mais c'était vraiment cette idée que d'être tout le temps dans la subjectivité de Sikone, de voir à travers ses yeux, et quand c'est un petit peu plus large, comme par exemple quand on est chez elle, où c'est tout petit, mais où on voit bien l'espace, c'est parce qu'on est dans son univers, donc on découvre les petits trucs qu'elle met partout, on découvre son dedans à l'extérieur, disons.
Merci. Eh bien, je crois que nous avons terminé pour ce soir. Merci beaucoup pour ce très beau film et à bientôt.
Merci Floria.
Au revoir.
Au revoir.